Rébène.
Le magazine qui explore,
qui voyage, qui découvre.
Encore des ribines tout en images cette semaine, et qui plus est sous-marine, avec le deuxième épisode de notre série consacrée aux photographes du Finistère. Et aujourd'hui, c'est Erwan Amis que nous rencontrons. Il est assistant ingénieur pour le CNRS et l'Institut Universitaire Européen de la Mer, l'IUEM. Et en fait, sa spécialité, c'est la photographie sous-marine. Et c'est une activité qui, pour lui, remonte à loin.
Je suis venu très tôt à la photo, très jeune, ça m'a attiré, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que j'avais un père qui faisait de la peinture et l'image m'a intéressé. Donc très tôt, je me suis mis à faire des photos de ma famille. Et puis, dès que j'ai gagné un petit peu d'argent, lorsque j'étais étudiant, je me suis acheté un appareil photo d'occasion. Et c'était un appareil photo sous-marin, parce que je plongeais déjà. Et...
Vous habitiez déjà dans le coin ?
Ah oui, je suis originaire de Belle-Île-en-Mer. Donc d'avoir les pieds dans l'eau, c'est un peu... C'est un peu le quotidien. C'est un appareil qui était amphibie en fait. On pouvait faire des photos sous l'eau, mais aussi à terre. Donc ça m'a permis, avant de l'utiliser sous l'eau, de bien le maîtriser en surface. J'ai vraiment appris de façon indépendante et vraiment par l'erreur, on va dire. Donc j'ai consommé un nombre incalculable de pellicules avant de comprendre ce que je faisais. Et puis voilà, ça a commencé comme ça.
Et vous photographiez quoi à l'époque, alors sous l'eau, je veux dire ?
Alors à l'époque, j'étais moniteur de plongée et j'avais fait des études de biologie marine, donc j'étais branché sur des petites bêtes, vous voyez, les petites bêtes, les limaces de mer. Je faisais de la macro-photographie en photo sous-marine. C'est ce qu'il y a de plus facile à faire, la macro, parce qu'on a tout de suite un rendu, on va dire, c'est net, c'est coloré. On arrive à faire des expositions correctes. C'était ça qui m'intéressait au premier plan. Puis après, je me suis amélioré sur les autres prises de vue, mais au début, c'était ça. De la macro, de la faune sous-marine. Ça, c'était dans les années 90, 93, par là.
Et au CNRS, vous avez été embauché quand ?
Alors, au CNRS, c'est bien plus tard. Hein. J'ai été embauché en 2002. J'ai été recruté pour en partie de la photo sous-marine, et pas que. Hein. Ça faisait partie de la feuille de recrutement, mais pas que. Il y avait plein d'autres choses. Il fallait savoir plonger, notamment, et puis naviguer. Il y avait une partie marine, marchande, marin, plongeur, photographe. Un peu le couteau suisse du milieu scientifique. Enfin, c'est vraiment intéressant parce que c'est très varié.
Alors la photo perso, vous en faites toujours du coup ? Parce que comme maintenant c'est devenu une activité professionnelle, vous avez peut-être plus envie d'en faire.
Alors si, j'en fais pour le plaisir. J'ai toujours des idées, ça me permet d'essayer en dehors de mon boulot des effets, des techniques que j'ai pas le temps de le faire pendant mon travail. Ça peut être de la famille, ça peut être une commande pour un copain, ça peut être... C'est pas que dans le travail, c'est aussi un plaisir. En fait, très tôt, c'est la photo en général qui m'a intéressé. Après, comme je suis tombé dans l'eau, ça m'a intéressé de faire des photos sous l'eau. Mais je suis aussi bien bluffé par un portrait en noir et blanc qu'une belle photo sous-marine d'un paysage sous-marin tropical ou totalement exotique.
Et alors, la photo, à titre professionnel, comment est-ce que vous la pratiquez ? Dans quelle proportion ? Enfin, comment ça entre dans votre poste déjà, dans votre métier ?
Mon métier, c'est de préparer des missions scientifiques dans des endroits improbables, hein, surtout en milieu polaire, un petit peu en tropical et en tempéré. Et surtout en polaire. Donc la photo va s'inscrire pour raconter l'histoire de missions scientifiques. Lors de la préparation de missions, j'ai un rôle de logisticien. Hein, je prépare, j'achète, je conditionne, j'expédie, je dédouane. Enfin, vous voyez, je fais tout la partie administrative et de conditionnement du matériel scientifique qui va partir. Une fois que le matériel est parti, je vais rejoindre le matériel sur place. Alors, par exemple, si on prend le cas du Groenland, eh bien, je vais rejoindre tous ces équipements qui sont partis bien avant nous sur place. Une fois sur place, je vais déployer tout ça. Donc, c'est souvent des instruments de mesure qu'on va installer sous l'eau, sous la banquise, qui vont faire des enregistrements continus. Puis, donc, tout au long de le déroulé de cette mission, je vais faire des photos qui vont raconter, sous forme d'un reportage, la mission. Et donc, ces images sont ensuite utilisées soit par les scientifiques pour illustrer leurs recherches, pour expliquer ce qu'ils font, pour rapporter, faire des bilans. Et puis, toutes ces images aussi sont données entre guillemets, à la photothèque du CNRS. Je suis un agent du CNRS, donc je donne ça à la photothèque du CNRS. Et eux, ils ont un vrai rôle de valorisation de ces images. C'est un métier à part. Hein. Savoir faire des photos, c'est une chose. Savoir les valoriser, c'est un autre métier. Et il faut vraiment passer du temps. Alors, je prends beaucoup de temps à faire de l'editing après la mission. Ça prend des jours, des semaines à sélectionner, à traiter l'image. Il faut la nettoyer un petit peu, la proposer à la photothèque. Et puis, ensuite, faire toutes les légendes, qui, quoi, comment, pourquoi, dans quel but, dans quel type de programme scientifique. Donc c'est le travail photographique dans le cadre professionnel. Ouais.
Donc vous reportez des actions de recherche et vous ne faites pas de photographie, par exemple, des animaux comme vous faisiez quand vous étiez petit, pour des chercheurs qui auraient besoin d'observer un fond marin qui ne peuvent pas y aller eux-mêmes.
Ah si, si, c'est-à-dire que lorsque vous êtes dans un endroit assez exceptionnel, eh bien, il faut faire des images de tout ce que vous pouvez. Croiser un ours polaire, c'est pas tous les jours. Il faut le prendre en photo. Je dis, oh, ben non, ça m'intéresse pas. Non, non, on fait la photo, il faut se mettre... on sait pas à quoi ça servira, mais ça peut servir. Il faut avoir les sens allumés, on va dire, tout le temps, et puis être attentif à ce qu'on voit. Aussi bien les paysages que les animaux, que les plantes, que les situations même des scientifiques dans leur travail.
Et vous avez fait des découvertes, entre guillemets, enfin, est-ce qu'il y a des retours, des scientifiques vous ont dit « Ah là là, mais ça, c'est, je m'y attendais pas ».
Alors souvent, les photos servent de témoignage, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément pris les bonnes notes à un moment donné pour expliquer un phénomène. Et puis sur la photo, on va remarquer un comportement, un phénomène naturel, biologique d'une espèce qu'on n'avait pas observé sous l'eau parce que les conditions sont telles qu'on ne voit pas ce qui se passe à un moment donné. Et donc la photo va servir à témoigner, à dire mais oui, il s'est passé ça à tel moment et on n'avait pas observé ça. Plein de fois, c'est arrivé que l'image serve de preuve à un comportement, à un phénomène non prévu ou non connu.
Vous n'avez pas découvert des animaux quand même ou des espèces de plantes ?
Alors non, pas de nouveaux animaux parce que c'est un peu compliqué, mais par contre des espèces récemment découvertes, hein, je pense à des choses en Antarctique, est très peu illustrée, c'est-à-dire qu'il y a des espèces qui sont assez rares et il y a très peu de photos. Donc oui, il y a des photos que j'ai faites de bestioles qui ont été très peu illustrées.
Et en général, quels sont vos territoires de travail ?
Depuis quelques années, à l'IUM, l'Institut universitaire urbain de la mer où je travaille, les équipes sont assez intéressées au pôle, hein, c'est un peu la mode en ce moment. Il faut aller observer, mesurer les phénomènes naturels pour essayer de comprendre comment ça va devenir avec le changement global du climat. Et donc oui, j'ai la chance d'aller au pôle Nord, mais aussi au pôle Sud, et des fois dans la même année. Donc c'est assez exceptionnel.
Pas de mer tropicale du coup ?
Alors si, de temps en temps. De temps en temps, mer tropicale. Il y a eu une période où j'allais 2 à 3 fois par an au Mexique, mais aussi en Nouvelle-Calédonie, en Mauritanie. Et là, en fin d'année 2018, je devrais, si tout va bien, aller en Polynésie à nouveau.
Et alors, quand vous faites une session de photos, j'imagine que les conditions sont différentes ouais, quand il fait froid ou chaud, mais comment ça se passe ? Combien de temps vous restez sous l'eau ? Combien de fois vous plongez, etc. Enfin, le quotidien, en gros.
C'est très variable. Ce qui prime lors d'une mission scientifique, c'est les expérimentations. C'est-à-dire que ce n'est pas la photo qui va être le moteur de la plongée, mais c'est l'expérimentation. Donc si c'est une expérimentation un petit peu compliquée, un peu longue, on va privilégier ça. Et puis si j'ai un peu de temps, je vais faire des images. Par contre, il y a des fois où on peut mixer parfaitement les deux, voire même des fois, c'est simplement de l'observation. Et là, je vais avoir tout le temps de la plongée pour faire des images. Alors en durée, eh bien, c'est très variable. Ça peut être 5 minutes comme 1 heure à 2 heures, selon la profondeur, selon les conditions. En milieu polaire, plus d'1 heure plongée, ça commence à être très dur. Il fait très froid, donc à la fin, on a deux mains complètement gelées. On ne peut plus actionner le déclencheur de l'appareil photo.
Donc sous l'eau, c'est quand même une manière de travailler qui est différente du photographe qui va vadrouiller, rester toute une après-midi, voire une journée. Vous ne pouvez pas vraiment planquer, entre guillemets.
Alors, c'est plus compliqué, en effet. Déjà, le milieu qu'on photographie, c'est une hérésie. Hein. C'est comme si vous faisiez à terre des photos dans le brouillard, avec une tempête de sable, avec des variations de lumière qui sont très compliquées. Ensuite, il y a la température. Hein. Il faut être équipé. Donc, vous essayez en milieu polaire, vous essayez de faire des photos avec des gants de boxe. Oui, donc la dextérité de maîtriser l'appareil, c'est compliqué. Et donc il faut bien maîtriser, bien connaître son matériel, savoir les risques, hein, du froid notamment sur notamment les batteries d'appareils photo. Hein, ça peut diviser par deux la durée d'une batterie. Des problèmes de condensation, hein, ça arrive dans le chaud. Hein, quand vous sortez d'un bateau climatisé, vous allez dans l'eau chaude, enfin entre l'eau chaude vers 25 degrés, et bien, il peut y avoir de la condensation dans l'appareil. Donc vous avez un effet David Hamilton sur votre objectif. Même chose en milieu froid, il peut y avoir de très grandes différences entre la surface de l'eau, où il fait une température clémente, et puis vous descendez dans de l'eau qui est négative, en dessous de zéro, et il y a aussi un effet de buée sur l'appareil photo.
Et pour la lumière, vous apportez parfois des éclairages d'appoint ?
Bien sûr, on utilise deux types d'éclairage, du flash, comme des flashs terrestres mis dans des caissons, ou des flashs construits spécialement pour être sous l'eau. Et puis de l'éclairage constant, hein, c'est des éclairages à LED ou à halogène, pour éclairer, alors soit donner une lampe à un plongeur qui va éclairer un paysage, un animal, ou soit carrément des rampes d'éclairage qui vont faire l'équivalent d'un soleil sous l'eau. Et ça marche très bien.
Donc vous ne faites plus uniquement de la macro, là, vous faites un peu de tout.
Ah non. Alors la macro, c'est nécessaire pour illustrer des animaux, mais les paysages sont les plus impressionnants. Surtout en milieu polaire, vous sous banquise, c'est très impressionnant. Vous plongez sous un plafond qui laisse passer la lumière à certains endroits ou qui ne laisse pas passer la lumière. Donc vous avez un effet de nuage, comme si c'était un nuage très sombre, avec des lueurs très subtiles de vert, de bleu. C'est assez imprécis, mais c'est assez magique. C'est-à-dire que ça vous fait un arrière-plan sur les images, unique, assez fantomatique, assez bizarre. Alors ça, c'est sous banquise.
Et c'est peuplé quand même.
Oui, c'est peuplé. Alors, sous le fond, il y a de la vie. Il y a plein d'animaux qui vivent sur le fond, soit sur la vase, dans le sable, sur les rochers. Il y a des algues, il y a des invertébrés, il y a des crabes, il y a des poissons, il y a toutes sortes d'animaux. Et sous la banquise, vous avez des animaux qui vivent dans la banquise. Il y a notamment des poissons. En Arctique, on trouve la morue arctique qui se loge dans les infractuosités de la banquise, par exemple. Mais on trouve aussi des amphipodes, une espèce de puce de mer qui vit aussi là-dedans et qui se nourrit des algues qui vivent sous la banquise.
Et vous, dans ces moments-là, vous restez sur la photo ou vous dites à la vidéo, ça serait pas mal aussi?
Alors évidemment, on y vient parce que c'est de plus en plus demandé. Donc l'avantage des matériels photo actuels, c'est qu'on peut faire aussi de la vidéo. Donc je m'y mets, et notamment avec des éclairages constants qui me permettent aussi bien de faire de la photo que de la vidéo.
Donc. Mais pour vous, l'attitude, elle est différente quand on fait une vidéo et quand on fait une photo?
C'est différent, en effet, parce qu'il faut avoir un esprit de cadrage, de raconter une histoire, pas simplement suivre un phénomène, ou alors c'est purement scientifique et technique, où ça n'a pas d'intérêt d'histoire, c'est juste pour illustrer, faire le tour d'un appareil, vous voyez, pour montrer sa position sur le fond de la mer. La vidéo, c'est plus compliqué, il faut préparer un petit peu sa prise de vue, savoir ce qu'on veut en faire, dans quel but final, est-ce que c'est pour monter dans un film promotionnel pour le CNRS, par exemple, à terme, ou simplement témoigner d'une situation. Donc c'est un petit peu plus compliqué, je préfère la photo, mais la vidéo, on y vient, c'est indispensable maintenant.
Est-ce que vous avez aussi des préoccupations purement artistiques, on va dire? Je ne parle même pas d'esthétique, mais vous dites, j'ai envie de faire aussi une photo qui soit belle.
Oui, alors je ne sais pas si c'est ça qui me caractérise et ce qui plaît dans les photos que je réalise, mais c'est j'essaye de rendre assez esthétique le milieu scientifique, de montrer qu'ils travaillent dans des endroits, des situations uniques, voire très artistiques, graphiques. On ne se rend même pas compte, c'est après souvent que le scientifique dit « Ah oui, c'est moi sur la photo là ? Ah mais c'est complètement dingue, c'est quoi cette ambiance avec cette glace avec... ?» Et on ne se rend pas compte de ce qu'on réalise. Et donc,
est-ce que vous avez en mémoire une session, ou plusieurs d'ailleurs, de photos qui étaient particulièrement marquantes pour une raison X ou Y d'ailleurs?
Alors une des plus marquantes, je pense que c'est mes premiers voyages en Antarctique. C'est tellement exceptionnel, c'est tellement hors norme, hors du temps. On a l'impression d'être dans un autre univers, sur une autre planète. Et en photo, notamment sous l'eau, on sait qu'il y a des endroits où on est le premier homme à mettre le pied, enfin la palme. Et donc, on fait une photo, on relate de l'agencement de la faune sous l'eau, par exemple. Il y a des groupes d'espèces qu'on reconnaît. Et là, en Antarctique, on a l'impression que tous les animaux ont été réagencés. Vous voyez, ceux qu'on a l'habitude de voir dans des trous, on les voit perchés. Ceux qu'on voit en pleine eau, ils sont au fond. Et toutes sortes de choses comme ça. Comme si on avait pris tous les animaux, on les avait mis dans un shaker. Comme si on arrivait sur notre planète et puis c'était organisé différemment. Ça fonctionne, mais différemment. Pour l'étudiant en biologie que j'ai été et puis le photographe, c'est un cas unique, c'est assez extraordinaire. Tout ça avec des couleurs incroyables, très colorées.
Oui, c'est ça qui est étonnant, on ne se dirait pas que dans les pays polaires, il y a beaucoup de couleurs.
Et oui, alors, c'est extrêmement coloré, c'est aussi coloré qu'un fond, des fonds tropicaux, voire même plus des fois. Ouais, c'est...
Et vous n'avez jamais eu peur, été en danger?
Alors on a peur, si, il faut avoir un petit peu peur pour se préparer et dire voilà, attention, il faut que je fasse attention. Alors c'est pas des grosses frayeurs, mais j'ai eu une grosse frayeur une fois, mais c'était après. C'était en Antarctique. Les côtes de l'Antarctique sont fréquentées par un gros phoque qui s'appelle léopard de mer. C'est un énorme phoque en haut de la chaîne alimentaire qui se nourrit de manchots, voire d'autres phoques qui mangent un peu tout et qui en gros n'a peur de rien. On nous avait prévenu, attention, les plongeurs, il peut y avoir des risques avec des léopards de mer. Bon, on ne connaissait pas trop l'espèce, notamment au point de vue de son comportement. Et puis lors de notre premier séjour, pas vu de léopard de mer. Et puis au bout de quelques semaines, il y a un léopard de mer qui est venu vers nous. Ce jour-là, j'étais seul sous l'eau. Très peu profond, dans 2-3 mètres d'eau, à essayer de programmer un appareil récalcitrant. Donc j'avais un collègue en surface sur le bord des rochers en train de préparer l'appareil. Et puis j'avais une équipe sécu à côté de moi en bateau, avec un plongeur sécu, un pilote, un Zodiac qui était au-dessus de moi pour surveiller. Tout ça dans une purée de glace. Donc j'étais pas très mobile. Et il y a un léopard de mer qui est arrivé, qui a fait le tour du Zodiac et qui a plongé sur mes bulles. Donc là, c'était un petit peu la panique en surface auprès de mes collègues qui ont sorti des pétards de rappel. Hein, c'est une espèce de gros pétard qui permet de faire une explosion pour éventuellement faire peur au fog, mais aussi me rappeler de dire il est temps de remonter. Évidemment, les pétards n'ont pas fonctionné. Moi, je suis remonté pour dire « Ok, l'appareil fonctionne, vous pouvez y aller. » Et là, tout le monde a crié « Sors de l'eau, sors de l'eau !» Il y a un léopard de mer. Le léopard de mer, en fait, il avait
déjà mangé.
Oui, il était déjà parti. Enfin bref, il était venu m'observer, mais moi, j'avais rien vu du tout. Et c'est que le lendemain, en fait. Le lendemain, quand j'ai dû replonger au même endroit, là, j'appréhendais le site d'une façon complètement différente. Hein. Je n'osais pas regarder en pleine eau pour voir s'il ne tournait pas autour de moi. Donc, une espèce de peur qui est montée comme ça. Et après, on plongeait toujours à deux. Mais voilà, des peurs comme ça, plus profondes que... Souvent, on est surpris par souvent un animal, mais rarement peur.
Mais là, vous ne l'avez pas photographié, du coup, Léo ?
Non, même pas. Et non, je l'ai photographié ensuite sur un glaçon, mais bon, c'était moins marrant.
Oui, vous êtes, quand vous faites vos sessions, donc vous n'êtes pas tout seul. Enfin, il y a quand même des gens autour de vous pour faire d'autres travaux.
Dans le cas du travail, on est toujours à deux sous l'eau. Dans des cas extrêmes, vraiment, on peut être trois, voire plus. Mais dans des petits fonds, par exemple, je peux être tout seul, c'est-à-dire relié à la surface, surveillé par la surface. Vous voyez, je suis dans le cadre professionnel, c'est très, très encadré. On ne peut pas faire n'importe quoi tout seul, quoi. Donc, il faut avoir des gens patients, parce qu'un photographe sous l'eau, ça prend trois fois plus de temps pour faire une prise de vue. Hein. On prend son temps, il faut être attentif, connaître un peu le comportement des animaux pour anticiper, faire le bon cliché au bon moment. Donc, il faut du temps.
Quand même, il y a une planque.
Il y a un peu de planque, oui. Ouais. Il y a certaines espèces qui sont très farouches qu'on n'a pas le temps de voir, et puis d'autres qui sont, vous voyez, inféodées à un territoire, toute petite zone. On sait que bon, ils se planquent parce qu'on leur a fait peur, mais si on attend un peu, on va les voir revenir parce qu'ils sont territoriaux. Donc ils vont venir voir s'il y a quelqu'un qui ne vient pas marcher sur leur territoire. Donc même si on a fait 1000 fois leur taille, ça revient. Donc on peut comme ça photographier des animaux.
Et on peut mettre des pièges photographiques sous l'eau où les appareils ne supportent pas ?
Si. Alors ça nécessite un peu plus de technique, mais ça marche.
Et vous avez déjà travaillé en même temps que des bioacousticiens, par exemple ?
Tout à fait, oui. Dans le cadre de mon travail, il y a des gens qui font de l'acoustique, hein, qui travaillent sur les paysages sonores sous-marins. Donc des fois, il faut illustrer notamment à quoi ressemble le paysage sous-marin. Donc il faut, j'ai même... fait des stations avec un appareil programmé qui faisait des photos toutes les 5 minutes. On essaie de voir s'il y a des changements du paysage. Est-ce qu'il y a des animaux qui passent ou des animaux qui sortent du sédiment. Vous voyez, si le paysage change, et associé à un hydrophone.
Voilà. Le bioacousticien, vous trouvez qu'il travaille différemment de vous ou finalement c'est assez proche ?
C'est une bonne question. Le paysage sonore, c'est compliqué parce que c'est pas si clair que ça dans l'eau. Hein. Dans l'air, on arrive à identifier, voir la direction des sons. Dans l'eau, c'est une espèce de jungle de bruit. Et il faut être super bon pour dire, ça c'est un crabe, là c'est un dauphin, là c'est une baleine, là c'est un bateau. Alors il y a des banques de sons qui permettent de mettre des noms comme ça sur des sons, mais il y a plein de sons. On est obligé de faire des essais en laboratoire pour dire, c'est bien cette espèce-là. Par exemple, la crevette claqueuse ou l'araignée. Hein, on a été surpris par le bruit des araignées de mer qu'on connaît en Bretagne. Ça fait un bruit terrible sous l'eau, c'était assez étonnant.
L'editing, vous l'avez un petit peu mentionné, vous dites que ça prend des jours. Enfin, comment ça se passe pour vous ? Est-ce que c'est différent, par exemple, d'un artiste ou photographe ?
Alors, moi, j'ai la chance de déposer mes photos à la photothèque du CNRS. Et donc, il y a des gens ensuite qui vont utiliser mes photos pour les valoriser. Donc, en gros, après une mission que j'ai photographiée, je vais faire une première sélection des images que je vais améliorer s'il faut. Alors, c'est un travail qui est assez succinct. C'est un peu comme le photographe autrefois, à la naissance de la photographie. Ce n'était pas la personne qui faisait la prise de vue qui était le photographe, c'était le gars qui était en labo. Et qui faisait le tirage. Donc il y a un peu cette idée de le gars qui capture la matière, après un petit traitement informatique évidemment. En photo sous-marine, on est souvent obligé de nettoyer la photo parce que tout à l'heure je parlais de tempête de sable sous l'eau. Eh bien on a souvent des particules dans l'eau et qu'il faut, si l'image a un intérêt, bien évidemment, scientifique notamment, eh bien je vais passer du temps à nettoyer cette photo. Donc ça c'est une première partie. Une fois que j'ai fait ma sélection, que les photos sont comme je l'ai souhaité, j'envoie ça à la photothèque du CNRS, qui ensuite me renvoie dans ma première sélection leur sélection à eux, celles qui leur paraissent intéressantes.
D'un point de vue scientifique, là, uniquement
Scientifique ou des fois artistique, hein, pour illustrer. Des fois, c'est, comme c'est une photothèque, ça peut illustrer aussi bien la couverture d'un livre de vulgarisation ou alors un article scientifique de fond. Donc il y a toutes sortes d'images. Des fois, même surprenant, des fois on dit tiens, celle-là va pas passer, puis c'est là qui plaît. Et donc ensuite, une fois qu'ils ont fait leur sélection, ils me renvoient, ça se fait par informatique, un document que je dois renseigner ensuite, qui, quoi, comment, où, pourquoi, le nom du programme éventuellement, les différentes instances, les tutelles scientifiques. Donc ça prend beaucoup de temps, parce que quand il y a une espèce d'écrit, il faut que je donne le nom, donc il faut que je trouve le nom. Donc il y a un vrai travail de recherche sur... Il vaut mieux rester des fois un peu évasif sur le groupe de l'espèce plutôt que de dire une grosse bêtise. Et pas appeler, j'ai une bêtise, un phoque alors que c'est une loutre, vous voyez, des choses comme ça. Donc ça demande beaucoup de travail.
Mais là, vous n'êtes pas seul, il y a des gens qui peuvent vous aider à nommer.
Justement. Oui, j'ai la chance d'être entouré donc je travaille de spécialistes. Donc je peux aller questionner, dire est-ce que tu penses que c'est plutôt celle-là ou celle-là. Et des fois, on ne sait pas, on a du mal à savoir. Donc, non, je suis dans un environnement scientifique qui est très ouvert et assez intéressé, notamment, pour me donner toutes ces informations.
Et quand ils ont sélectionné le CNRS, vous n'avez pas encore à retravailler les photos là, c'est...
Non, souvent, ce que je donne, c'est une photo finie pour moi.
Donc, vous parliez de livres, il y a d'autres modes de diffusion, les expos, par exemple?
Alors, les expos, bien sûr. Alors, les expos, ça va. Le CNRS en fait quasiment tous les ans. J'ai eu la chance, comme ça, d'exposer dans les aéroports de Paris. À Roissy, à Orly, dans le métro à Paris, à la station Montparnasse Bienvenue. Là, vous voyez, si les habitués connaissent le grand tapis roulant, là. Bon, bah, j'ai plusieurs fois eu la chance d'avoir des photos là. Alors, ensuite, il y a des photos qui correspondent à la COP21, où voilà, les photos sont associées à d'autres. Hein. Ensuite, à titre plus proche, on va dire, j'organise des expos ici, financées soit par le travail, soit par des partenaires. Je collabore régulièrement avec Bretagne Vivante, ça fait plusieurs années qu'ils m'ont commandé une expo sur un peu la biodiversité sous-marine en Bretagne Sud. Et bien, cette expo tourne depuis maintenant 4 ans, je crois, dans les différents locaux de Bretagne Vivante. C'est une expo qui s'appelle Batifolage, si vous avez la chance de la croiser. Les réseaux sociaux, tout le monde y vient. Même le CNRS, hein, ça a l'air sérieux le CNRS comme ça, mais ils viennent aussi aux réseaux sociaux pour diffuser de l'information et vulgariser.
Mais vous-même, vous ne pouvez pas utiliser, par exemple, vous ne pouvez pas faire votre site perso avec vos photos, elles ne vous appartiennent pas tout à fait, c'est ça ?
Alors si, je reste toujours propriétaire de l'image, mais évidemment, je rajoute la mention CNRS si ça a été réalisé dans le cadre du travail. Par contre, si ce sont des images que je réalise le week-end avec mon propre matériel, pendant mes loisirs ou pendant mes vacances, c'est différent. Voilà, là, je suis seul propriétaire. Mais c'est donnant. Moi, je préfère que mes images soient dans une photothèque accessible au public, que mes images dorment dans un disque dur au fond d'un tiroir et que personne ne les voit. C'est, faire des photos, il faut les montrer, ça ne sert à rien sinon.
Vous avez une idée du nombre de photos que vous avez réalisées pour le CNRS depuis que vous travaillez pour eux ?
Alors, je sais que les images en ligne, il y en a plus de 1000 actuellement. Mais évidemment, j'en ai fait beaucoup plus. Mais actuellement disponible sur la photothèque du CNRS, il y en a plus de 1000. Voilà, qui touche aussi bien du polaire, du tropical, du tempéré, toutes sortes d'images. J'ai lu beaucoup de livres aussi scientifiques, hein, que ça va de la couverture à l'illustration d'articles. Puis en plus, je collabore, comme je disais, avec d'autres tutelles, notamment la revue Armen, que j'affectionne tout particulièrement. Voilà, donc régulièrement, j'illustre des articles ou ils me commandent des images et je leur fournis. Mais toujours dans le milieu marin, voilà, ils ont... un peu des photographes spécialisés dans des domaines et ils savent les appeler quand il faut.
Alors la dernière question rituelle, quel regard vous portez sur le métier de photographe si vous en avez un ?
Alors c'est une question un peu compliquée parce que il n'y a pas de recette pour devenir photographe. C'est une activité qui dépend de la personne en fait. Et de l'activité. Souvent chacun trouve une niche. Alors soit pour en vivre, mais il y a un petit peu des fois un peu de l'alimentaire qui n'est pas forcément glorieux mais nécessaire. Et si on a un regard un petit peu plus artistique, ça permet de faire de l'image, de faire de la photo un petit peu comme on a envie, avec une démarche vraiment artistique, abstraite, enfin tout est possible. Et vivre de ça, c'est compliqué. Hein, trouver un juste compromis entre de l'alimentaire et puis vraiment montrer sa sensibilité, c'est compliqué.
Moins d'avoir une niche, justement, comme vous.
Voilà, une niche, voilà, c'est vraiment une toute petite niche, hein, la photo sous-marine. On est très peu en France à vivre de ça. Alors moi, j'ai la chance d'avoir un travail un peu complet. Et j'ai la chance, c'est une vraie chance. Hein. J'en connais 3-4 en France qui vivent de ça. Ça nécessite des investissements énormes. Hein. Il faut savoir qu'un appareil photo qui va sous l'eau, ça n'a rien à voir. Enfin, en tarif, c'est quasiment le double, voire le triple en équipement. Et je ne parle pas du matériel de plongée qu'il faut avoir pour aller faire ces images. Donc, quand vous vendez une photo, on pourrait tripler la valeur de la photo. Alors que ça passe pas, ça ne se vend pas. Personne n'achèterait. La presse, c'est de pire en pire pour être payé. Enfin, vous voyez, avoir un regard global, c'est compliqué. Mais je sais que dans ma niche, très peu de gens en vivent. Y a des gens, il y en a 2-3 en France. Et eux, ils sont passés de la photo à de la film, là, de l'agroproduction, associés à la télé. Voyez, c'est tout de suite, ça devient une grosse entreprise. Tout seul, c'est compliqué. En plus, il y a des sujets un petit peu comme des marronniers qui reviennent tous les ans. Faire du nouveau, c'est compliqué. Du tropical, tout le monde en fait parce que c'est facile, c'est chaud. Et l'endroit où je vais, il y a moins de prétendants déjà. Donc c'est une double niche. Illustration de photos sous-marines en milieu polaire, il y en a beaucoup moins déjà.
Là, c'est des fonds publics, quoi. Enfin, il faut un financement public.
Quasiment. Les quelques personnes qui font des photos sous-marines que je connais en milieu polaire, il y a 2 personnes quoi, qui vivent de ça. Et c'est pas en France. Voilà, c'est des Américains, des Canadiens qui arrivent à vivre de ça. Et on voit que c'est très, très dur.
Cette interview a été enregistrée à Océanopolis dans le pavillon Bretagne, récemment refait. L'une des nouveautés, c'est cet espace consacré au son de la mer. On a pu en entendre un échantillon dans le reportage.